Et c'est le journal d'Hugo Lanoë. Bonjour Hugo.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Bolsonaro va tomber mais l'Amazonie restera. Message scandé hier dans les rues de Rio et de Sao Paulo. Reportage à suivre au cœur de ces manifestations pour dénoncer l'inaction du président brésilien, mais aussi et surtout le désastre environnemental avec ces flammes qui ravagent le poumon vert de la planète. Plusieurs pays annoncent des mesures contre le Brésil. La France renonce à ratifier l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.
Et on en parle dans 20 minutes avec le premier invité de la matinale, Christophe Ventura, chercheur à l'IRI, spécialiste du Brésil. Rendez-vous à 7h50.
L'urgence climatique, un sujet parmi d'autres au cœur des discussions du G7 qui s'ouvre en fin de journée à Biarritz. Avant cela, Emmanuel Macron fera une allocution présidentielle à suivre en direct sur France Inter à partir de 13h. Dans l'actualité également, la joie et le soulagement pour les 356 migrants de l'Ocean Viking. 6 pays européens vont les accueillir. Et puis du rugby à suivre en cette fin de semaine avec le deuxième match de préparation du 15 de France en vue de la Coupe du Monde et le coup d'envoi du top 14.
France Inter. Des images qui font le tour du monde, celles de la forêt amazonienne ravagée par les flammes.
Un chiffre pour appuyer cette indignation internationale, les incendies dans le poumon vert de la planète ont augmenté de 80% depuis le début de l'année, chiffre de l'agence spatiale brésilienne. Face à ce désastre environnemental, plusieurs pays annoncent des mesures contre le Brésil, parmi eux la France. À quelques heures de l'ouverture du sommet du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron a décidé de ne pas ratifier le controversé accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le président français affirme que son homologue Jair Bolsonaro a menti sur ses engagements climatiques. Sur place, plusieurs manifestations ont rassemblé hier soir des milliers de personnes au cri de « Sauver l'Amazonie ». Reportage à Sao Paulo de Juliette Onsard.
Bolsonaro va tomber, mais l'Amazonie restera, ont crié en chœur les manifestants sur l'avenue Paulista hier soir. Face au drame environnemental qui se joue sous ses yeux, Nathalie brandit une pancarte. Il n'existe pas de plan B pour la planète.
Oui, c'est notre président, même si ça ne me plaît pas du tout. Pour lui, ce sont des mensonges inventés par les médias. Mais c'est dévastateur de voir ça.
Pour Gabriel, les sanctions économiques promues par Emmanuel Macron contre le Brésil et les pressions internationales sont cruciales, mais ne résoudront pas le problème.
C'est important, mais en même temps c'est ambigu, car le Brésil s'est positionné comme le grenier de l'Union européenne et des États-Unis. Est-ce que notre rôle est juste d'exporter de la viande bon marché et du soja bon marché ?
Absent du G7, le Brésil sera néanmoins au cœur de toutes les discussions à Biarritz ce week-end, n'en déplaise à Jair Bolsonaro, qui a dénoncé dans son discours hier soir les sanctions économiques contre son pays, qu'il considère malgré tout comme un modèle de défense de l'environnement. À São Paulo, Juliette Onsa, France Inter.
Et après avoir accusé les ONG de mettre le feu à l'Amazonie, le président brésilien a fini par autoriser l'armée brésilienne à intervenir pour circonscrire les incendies. Mais Jair Bolsonaro l'affirme, les flammes ne peuvent servir de prétexte à des sanctions internationales dont son collimateur Emmanuel Macron. En refusant le Mercosur, le chef de l'État français s'oppose frontalement au climato-scepticisme du président brésilien. Dans le même temps, Emmanuel Macron envoie un signal fort en France, Cyril Graziani.
Emmanuel Macron a saisi la balle au bon. Agriculteurs, écologistes, quelques dizaines de députés En Marche avaient fait part de leur vive désapprobation. À l'Élysée, on promet qu'il n'y a pas de lien entre cette décision de refuser l'accord Mercosur et ses critiques. Une pierre de coup car clairement d'emblée, alors que s'ouvre le G7, le chef de l'État a décidé de verdir ce sommet. En France, les paroles présidentielles laissent les ONG sceptiques, alors qu'à l'international, beaucoup le présentent comme un champion du climat. Même si sur le programme officiel, la session climat n'aura lieu que lundi et n'occupera qu'une heure et demie du temps des 7 puissances, la question climatique va occuper la majeure partie des esprits. Une charte pour la biodiversité doit être signée ce week-end à Biarritz. Emmanuel Macron ne désespère pas de faire pression et d'obtenir la signature de Donald Trump, ce qui en soi serait un petit exploit. Biarritz, Cyril Graziani, France Inter.
Biarritz où s'ouvre donc un G7 sous haute sécurité. Plus de 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Hier à Urung, un contre-G7 était organisé. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. 17 interpellations, 4 policiers ont été blessés.
Le ton est donné également sur le plan diplomatique avec le tempétueux Donald Trump.
Avant de s'envoler pour Biarritz, le président américain a montré qu'il n'entendait en rien renoncer à son style combatif et volontiers provocateur. heures, notamment à propos de la taxe française contre les GAFA, les géants du net. Le locataire de la Maison Blanche, Percy Stessing, ce n'est pas à la France de taxer les entreprises américaines, dit-il, avant de réitérer sa menace, celle d'imposer des tarifs douaniers contre les vins français.
Les bras de fer commerciaux, mais aussi la question migratoire, autant de dossiers qui seront au cœur des discussions au G7.
D'ailleurs, après le dénouement cette semaine de l'Open Arms, l'heure est à la joie et au soulagement pour le second navire humanitaire, l'Ocean Viking, et ses 356 migrants à son bord. Bloqués depuis une dizaine de jours en mer Méditerranée, tous ont été pris en charge hier soir par plusieurs vedettes militaires maltaises. Ils seront par la suite répartis entre 6 pays européens, dont la France, qui en accueillera 150. Un épilogue qui ne convient pas totalement à la directrice générale de SOS Méditerranée, Fabienne Lassalle.
Tout cela est beaucoup trop long. Tout navire de sauvetage n'est qu'une solution très transitoire, qui ne peut pas durer ce qu'elle a duré, à savoir 14 jours. On ne peut pas se satisfaire de telles solutions de bricoler entre les États européens. Il faut vraiment un système qui soit prévisible, anticipé, coordonné entre les États européens, soit la réponse apportée à ce type de situation. Donc nous fondons beaucoup d'espoir dans le prochain rendez-vous à La Valette, entre les quelques pays européens qui ont manifesté le souhait d'avancer sur ces sujets, et qu'enfin on en vienne à une solution qui soit acceptable. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit groupe, effectivement, de pays plus volontaires que les autres, qui sont toujours les mêmes que l'on retrouve dans la répartition des rescapés. C'est certainement sur ces pays-là qu'il faut s'appuyer pour mettre en place un mécanisme qui soit, lui, récurrent et facilitateur.
Des propos recueillis par Béatrice Duguay. Pendant ce temps, le gouvernement français poursuit ses consultations avec les professionnels du bâtiment au sujet de la transformation du crédit d'impôt transition énergétique, avec une nouvelle séance hier au ministère de la Transition écologique et solidaire. Le principe de la nouvelle prime, elle sera versée directement à ceux qui effectuent chez eux des travaux de rénovation thermique. Elle sera plus ciblée vers les ménages modestes, mais risque d'entraîner un ralentissement de l'activité. C'est du moins la crainte du secteur de la construction, Fabien Cazot.
Premier argument, selon le gouvernement, celui de l'efficacité énergétique. Le montant de la prime sera indexé sur la performance écologique des travaux et non plus sur leur coût. Le deuxième argument est social. Contrairement au crédit d'impôt qu'il fallait attendre pendant un an, la prime sera versée dès le début des travaux et selon des critères de revenus, les ménages les plus modestes en seront les premiers bénéficiaires. Une intention louable, selon le président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu. Mais problème, il craint un ralentissement de l'activité.
Comment accepter qu'une catégorie de nos compatriotes, ceux qui ont les revenus les plus hauts et qui représentent plus de 50% des travaux, n'aient plus aucune incitation à partir de l'année prochaine? Vous voyez, il y a une incohérence entre un discours qui est très ambitieux sur la rénovation énergétique des bâtiments et la réalité budgétaire en face. Donc voilà, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de nos ambitions.
Du côté du ministère, on défend un dispositif plus performant, plus simple et plus juste. Les foyers les plus modestes y auront accès dès l'année prochaine. Le barème et les montants précis de cette nouvelle prime figureront dans le projet de loi de finances présenté fin septembre.
Explication signée Fabien Cazot.
Allez, un week-end de rugby particulier en France.
Une fin de semaine marquée par le deuxième match de préparation des Bleus pour la Coupe du Monde au Japon. C'est cet après-midi à Édimbourg. Les Écossais vont tenter de prendre leur revanche sur le 15 de France, mais aussi par la première journée du top 14. D'ailleurs, comment les joueurs du championnat français jugent-ils les Bleus? Y prêtent-ils attention? Élément de réponse avec Fanny Lechevestrier.
Des joueurs du top 14 qui suivent attentivement les matchs de préparation des Bleus, comme le jeune Bordelais Mathieu Jalibert, pour l'international non retenu pour la Coupe du Monde. Pas de doute, l'équipe de France a déjà fait de gros progrès.
J'ai vraiment senti une équipe qui se faisait plaisir sur le terrain, donc ça va être dur, hein, bien sûr, mais je pense qu'ils ont les capacités et le potentiel pour sortir de la poule et pour aller plus loin. En tout cas, nous, ils nous font plaisir aussi, et ça fait du bien de voir l'équipe de France un peu rayonnante.
Et pour beaucoup, le futur sélectionneur Fabien Galthié, arrivé au sein du staff en juin pour épauler Jacques Brunel, n'y est pas étranger. Raphaël Lacafia l'a eu en tant qu'entraîneur à Toulon et pour lui, il est de ceux qui peuvent justement ramener les Bleus au plus haut niveau.
Fabien, c'est quelqu'un qui a des très bonnes idées pour le jeu et la façon dont il a envie de mener son équipe. Donc voilà, s'il arrive à mettre en place tout ce qu'il veut, ce sera une équipe compétitive, c'est indéniable.
Mais la question est, peut-on vraiment tout changer en un été et transformer une équipe qui perd en prétendante à la victoire finale? Le Montpellierin Fulgence Ouédraogo, deux Coupes du Monde à son actif, en est persuadé.
Si on leur redonne la confiance, quand on regarde l'équipe, il y a vraiment des joueurs de très haut niveau, donc ils ont l'occasion de faire quelque chose de grand à mon avis.
Et loin des rancœurs ou des déceptions de ne pas avoir été retenus, tous se déclarent premiers supporters du 15 de France.
Écosse-France, c'est donc le deuxième match de préparation des Bleus, coup d'envoi cet après-midi à 14h10, et puis du ballon ovale au ballon rond, début de la troisième journée de la Ligue 1 aujourd'hui, 4 matchs au programme, tous à 20h, Angers-Metz, Dijon-Bordeaux, Brest-Reims et Amiens-Nantes.
Merci Hugo Lanoë. Le temps pour aujourd'hui, Jean-Michel Golinski. Alors on va faire très classique, hein, lunettes de soleil et protection solaire.
Ah, tout à fait Laetitia, avec du soleil et de la chaleur en vue pour ce week-end, sous un ciel bien bleu sur la quasi-totalité du territoire. Petit bémol pour la façade atlantique qui verra défiler un ciel souvent plus voilé, puis on notera l'arrivée en cours de journée de grisailles maritimes sur le Pays Basque et sur le Finistère. De la Provence à la Corse, comme ces derniers jours, on ne sera pas à l'abri du développement d'orages en seconde partie de journée. Et puis pour demain, pas de changement avec le maintien d'un ciel plus terne qu'ailleurs près de l'océan et d'un risque orageux entre la montagne Corse et les Alpes du Sud. Et puis, il va faire chaud ce week-end vers 30 degrés en moyenne près de la Méditerranée et entre 30 et 35 degrés sur le reste du pays.